Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Débat avec vous sur Sud Radio. Il pleut à Paris, alors figurez-vous que ça roule mal. Oh, tout de suite, Régis de Castelnau, vous êtes dans le sud de la France et il fait beau.
Magnifique.
Ah bah ouais, bah nous il pleut et donc Virginie Le Guay est en retard. Régis de Castelnau, vous êtes avocat. Votre blog Vue du droit, vous avez publié une justice politique aux éditions L'Artilleur. Jadab, bonjour. Êtes essayiste. Vous avez publié Retrouver la République, c'est aux éditions du Seuil, Cherche Midi. Voilà, il faudrait le rajouter, Madame Brioufol, parce que c'est bien quand on cite les éditeurs. Voilà, je le rajoute. Alexandre Malafaï, président du think tank Sinopia, et merci de ne pas avoir publié de livre. Et nous attendons Virginie Le Guay, donc journaliste et éditorialiste politique. Je vous avoue qu'on a eu un petit peu de mal ce matin à trouver des sujets. On traite un petit peu tout. Voilà, les loyers, on l'a fait. L'augmentation des prix aussi. Alors bon, on va parler de cette catastrophe dans nos services publics, hôpitaux, éducation nationale qui peinent à recruter. Thierry Soler qui renonce, la France insoumise qui investit une infirmière qui avait insulté la police. Toujours cette question de l'exemplarité des candidats qui est quand même au cœur de ces élections législatives. Et puis peut-être aussi de la nomination du nouveau gouvernement qui prend plus de temps. Et visiblement, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique enquête à chaque fois qu'il y a des nominations. Et ce retard pourrait être dû à ces vérifications. Donc, gouvernement, pourquoi autant de temps? Et puis, que pensez-vous du départ de Damien Abad? La matinale vous pose la question important ou non-événement. Vous avez été nombreux à répondre que c'était un non-événement. Mais bref, on en parlera avec vous. Commençons avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Alors Régis, on commence avec vous, Régis de Castelnau.
Alors j'ai un coup de cœur. Oui. C'est pas souvent. Hein,
non.
Donc...
bah oui, on va
alors,
en profiter.
J'ai failli avoir un coup de gueule parce qu'hier j'écoutais l'émission et on revenait sur les histoires, et bien on va en reparler d'ailleurs. De casier judiciaire vierge pour pouvoir se présenter, etc. Bon, non, j'ai un coup de cœur. Je suis tombé sur une application qui s'appelle Glyph, je crois que c'est comme ça qu'il faut le prononcer, G-L-2-E-P-H, qui est une petite application qui permet d'organiser sa bibliothèque. Hein. Donc, on scanne les codes-barres ou bien on rentre les... Et ensuite, on met ça sur des étagères dédiées et tout, sur son téléphone ou sur sa tablette. Mais c'est aussi un réseau social. C'est aussi un réseau social, donc vous avez des correspondants, vous décidez de suivre tel ou tel, on peut débattre des livres qu'on lit, conseiller celui-ci, etc. Et c'est assez... Moi, je m'amuse beaucoup, hein, je ne vous cache pas,
bon
lecteur.
Ouais.
Hein, et depuis le temps, hein, vu mon âge, j'ai une bibliothèque qui est considérable. Hein, il faudrait que j'ai une autre maison pour mettre autour de cette bibliothèque, d'ailleurs, parce que ça prend une place folle. Mais peu importe.
Mais il faut quand même aller scanner les livres, donc il faut...
Oui, non mais c'est rien. Non, attendez, vous sortez vos bouquins, vous scannez, hop, immédiatement. Alors attention, vous avez toutes les informations sur le bouquin, enfin, qui arrivent, puisque il faut être branché sur Internet. Non, c'est très très simple, hein. Moi je m'amuse beaucoup.
Hein. Bon, vous me direz si vous avez les miens.
Voilà, est-ce que vous avez ceux de ou celui de Jadab ou celui de d'Alexandre Malafaï?
Moi j'en ai plusieurs.
Non, pas encore, mais justement. Justement.
Alors je vais vous donner un conseil de lecture que j'ai donné précédemment dans le coup de cœur des libraires et qui va vous passionner. C'est un livre qui s'appelle Le Maître et l'Assassin de Sophie Bonnet et ça concerne votre confrère, éminent confrère décédé, Maître Metzner, qui est mort sur l'île du Boédic en Bretagne et donc. Donc c'est cette relation toxique qu'il a eue avec un jeune gigolo.
Exactement.
Manipulateur. Le livre est passionnant, fascinant. Vous rentrez dedans, vous ne pouvez pas le lâcher. C'est chez Robert Laffont. C'est une enquête redoutable et remarquable. Et puis vous allez voir la face sombre de l'humain, à la fois chez ce jeune homme mythomane, assassin, jamais condamné, mais qui est accusé d'avoir tué le patron de la Warner Australie, empoisonné de nombreux amants à lui, et puis des questions qu'elle pose dans ce livre. Vraiment, j'ai adoré. C'est rare que je vous...
Elle remet en cause l'hypothèse du suicide. Enfin, c'est même pas une hypothèse.
Elle remet pas en cause, mais il y a quand même des questions qui peuvent se poser sur le mode opératoire du jeune homme qui faisait ingurgiter un certain nombre de... Il n'était pas sur place, mais il y a des questions quand même sur... Mais on découvre que Maître Metzler, brillant avocat, était toxicomane, cocaïnomane, alcoolique, partouzeur. C'est un portrait assez dur, hein.
Comme Richard Descoings, le patron de Sciences Po, qui, quand il est décédé dans des circonstances abracadabrantes, a fait l'objet
d'éloges
extraordinaires. Les révélations, elles viendront après dans le livre de Raphaël Baquet, mais d'éloges extraordinaires. Je me rappelle même Nicolas Sarkozy, alors que tout le monde savait, y compris la dimension financière, parce que, je veux dire, Sciences Po était devenu, un lieu de corruption aussi. Donc voilà, non, mais je pense qu'effectivement, le pauvre Metzner était quelqu'un qui était, je pense, je l'ai peu fréquenté, hein, mais qui était quelqu'un d'assez malheureux, en fait.
Oui, très. Donc... C'est ce qui ressort. Quelqu'un de malheureux qui se trouvait très laid, qui n'a d'ailleurs jamais eu de relation sexuelle avec ce gigolo. Enfin, c'est vraiment un livre que je vous conseille. Donc, l'application Glyph, G-L-E-P-H, que vous nous avez conseillé, qui est une application gratuite française qui fonctionne comme un réseau social pour ceux qui aiment la lecture, pour vous aider à classer vos livres. Et puis, ce livre, Le Maître et l'Assassin de Sophie Bonnet, qui est paru chez Robert Laffont. Virginie vient d'arriver. Je disais qu'il pleuvait à Paris, c'est toujours compliqué.
Devinez-le dans les embouteillages de Paris. Merci Madame Hidalgo.
Cette ville est un enfer. Voilà.
Et c'est pas fini.
Et c'est pas fini.
Ce n'est que le début.
Voilà. Et donc c'était le coup de gueule de Virginie. Je vous saute dessus dès que vous arrivez, mais c'est en rapport avec votre retard.
Oui, je voulais m'élever, m'agacer contre la énième proposition de Madame Hidalgo. Je pensais que son score à la présidentielle l'aurait un peu calmé. Je rappelle qu'elle a fait très très peu de voix à Paris, mais pas du tout. Elle a de nouveau plein de projets. Elle avait même le projet d'abattre des arbres au Champ de Mars. Finalement, je crois qu'elle n'a pas pu le faire. Et maintenant, elle a le projet de rendre le périphérique vert. Je rappelle que le périphérique est utilisé essentiellement par des gens qui vont de banlieue en banlieue, que ce ne sont pas les Parisiens qui utilisent majoritairement le périphérique.
Bien sûr.
Et que c'est une décision totalement absurde, une de plus. Il y a déjà une ceinture verte qui existe dans Paris, au cas où elle l'ignorerait, qui est l'ancienne ceinture où circulait... Ce qu'on appelle la petite ceinture. Le périphérique sert à des millions et des millions de personnes. Il existe depuis 50 ans. Alors certes, on peut toujours penser qu'un jour ou l'autre, il faudra carrément empêcher les voitures de rentrer dans Paris. Mais je trouve son projet absurde et j'ai goûté avec un peu de plaisir la réaction du préfet l'allemand, qui je pense la déteste d'ailleurs, mais qui lui a dit que non, mais à chaque fois ils se mettent dans des querelles tous les deux, et qui lui a dit que il n'avait été saisi à ce jour que d'une voie prioritaire pour les officiels, les athlètes, pour les JO, et que pour le reste elle devrait concerter avec lui. Concertation qui s'annonce hautement explosive.
Mais c'est des avancées, des reculés en permanence.
Alors je voudrais ajouter une chose.
35 km de périphérique, pardon, je le dis simplement, 35 km de périphérique et le périphérique a été inauguré en 73 et effectivement je retrouve mes chiffres, 80% des utilisateurs du périphérique sont des gens qui vont de banlieue en banlieue.
Ce qui est fou quand même, c'est qu'elle est compétente seule quasiment sur le périphérique alors que c'est un axe routier qui concerne la France entière.
Valérie Pécresse réclame l'attribution.
C'est un coup de François Hollande.
Vous
lui qui a donné la compétence transport.
Vous direz un mot tout à l'heure, Régis, c'est l'heure du journal, il est bientôt 11h sur Sud Radio, à tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Les débats avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Nous commentons ensemble l'actualité avec Alexandre Malafaï, président du think tank Sinopia, Régis de Castelnau. Vous êtes avocat, votre blog Vue du droit, auteur également de ce livre Une justice politique paru aux éditions L'Artilleur, et vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire. Virginie Leguet, journaliste, éditorialiste politique, et Jade Zahab, vous êtes essayiste, vous avez publié Retrouver la République paru aux éditions du Cherche Midi. Voilà, on va revenir, je disais tout à l'heure, avant que vous n'arriviez, Virginie, l'actualité est un peu plate.
Vous avez osé commencer sans moi, vraiment, je suis surprise.
Gouvernement, pourquoi tant de temps? Ce sera ce soir, mais c'est vrai qu'ils ont mis, le temps. Damien Abad qui quitte la présidence des députés LR et qui se met en retrait. évidemment certainement en attente d'une nomination au gouvernement. Ensuite, l'exemplarité, je trouve que c'est un sujet intéressant. Oui. On voit que Thierry Soler a renoncé, ce n'est pas neutre à se présenter dans les Hauts-de-Seine. Et puis, toujours cette pénurie dans les services publics, hôpitaux, éducation nationale. C'était le Figaro qui nous montrait qu'en Ile-de-France, il n'y aurait pas assez de profs pour assurer les cours, les classes, que ce soit au primaire ou au secondaire. On pourra y revenir. On continue notre tour de table. Vous vouliez dire un mot, Régis, peut-être sur...
Juste, une seconde.
Depuis votre confinement choisi.
Voilà.
Absolument. juste concernant Anne Hidalgo, sur beaucoup de ses projets, il y a également les Champs-Élysées, etc.
Oh là
il y a
là,
pas
là,
mal
oui,
de choses qu'elle prend en charge ou sur lesquelles elle essaye de créer du fait accompli. Elle n'a pas les compétences juridiques. Et deuxièmement, elle n'a pas l'argent.
Ouais.
Enfin, si les règles
vrai,
de toutes les
raison.
Collectivités françaises...
Jamais Paris n'a été aussi endettée.
Elle serait en tutelle.
Oui.
Elle a une faveur qui lui a été donnée par Hollande, une fois de plus, hein, qui fait qu'elle a le droit... Elle a le droit de fonctionner en dehors des règles. C'est-à-dire que ces dépenses de fonctionnement qui ne peuvent jamais être abondées par l'emprunt, elle a le droit.
Mmh. Oui, avec cette particularité, en fait, qu'elle emprunte, si je veux dire, enfin, elle se fait payer 50 ans d'avance de loyer par les bailleurs sociaux.
C'est dingue.
Pour se faire de la trésorerie, et c'est validé par Bercy. Et l'année dernière, à nouveau, Bercy a validé le dispositif à hauteur de 500 millions d'euros. Donc, je veux dire, il y a quand même une complaisance à ce niveau-là, au niveau de l'État et de la mairie de Paris, qui n'est pas claire.
Ils nourrissent le monstre qui va les dévorer.
On parle, c'est une transition peut-être pas très heureuse néanmoins, mais on va parler famine avec vous, Jadab. C'est votre coup de gueule.
Oui, notamment parce que le The Economist, ce quotidien britannique, a fait une que je trouve assez poignante.
Ouais,
il a
terrible.
Trois grains de blé avec des têtes de mort
terrible.
Dessus pour annoncer la catastrophe alimentaire dans le monde. C'est 276 millions de personnes qui seraient menacées. Alors, il y a le conflit ukrainien qui évidemment à renforcer cette situation déjà causée par la sécheresse et le dérèglement climatique. Il y a plusieurs solutions, plusieurs pistes qui sont évoquées par les Nations Unies, notamment la première d'entre elles, ce serait que l'Ukraine puisse de nouveau exporter. Alors ça semble très compliqué, ouais. Et je l'ai découvert en lisant un article de vos confrères du Monde, 22 millions de tonnes de céréales sont actuellement stockées en Ukraine et ne peuvent tout simplement pas être exportées parce que chacun connaît la situation.
Et risque de pourrir.
Exactement, ouais. Et d'autant qu'on ne pourra pas refaire des semis pour les prochaines saisons, donc ça risque de durer. Et ce qui me marque, c'est qu'on est en 2022 et que la faim est de nouveau une arme politique. Vladimir Poutine le sait, il a tout fait pour. Il a redonné à l'agriculture russe une force qu'elle n'avait pas du tout quand il est arrivé au pouvoir. Et la faim est une arme, on le voit aujourd'hui. C'est pas une arme très sophistiquée, mais c'est hélas, on est ramené à ce qu'on a de plus humain, des êtres de chair. Et donc c'est vrai que pendant que l'Ukraine se meurt sous les bombes, le reste du monde, et notamment le continent africain, se meurt parce qu'il n'y a pas d'eau, parce qu'il n'y a pas... Il n'y a plus de nourriture. Et je voyais notamment sur la corne de l'Afrique la sécheresse aiguë en Somalie, au Kenya et en Éthiopie, où il n'y a plus aucune culture. Et c'est assez inquiétant. Alors, les Nations Unies avaient lancé un appel aux dons des États et des entreprises privées. Il manquait à peu près 475 millions de dollars. Ils n'ont récolté que 6% des fonds nécessaires. Alors, vous trouverez sans doute mon parallèle peut-être exagéré, mais quand on voit qu'Elon Musk, ce milliardaire, était prêt à dépenser 44 milliards de dollars pour racheter Twitter, et qu'on voit que là, il manque un demi-milliard de dollars et qu'on a du mal à les avoir, ça pose question.
On peut aussi parler des dirigeants africains qui ont une énorme responsabilité.
Qui ont aussi piqué dans
quand
les caisses,
on voit les biens mal acquis à Paris avec des immeubles avenue Foch,
ça, c'est sûr.
Une richesse qui ont pillé leur peuple, ils ont une énorme responsabilité sur l'état de l'Afrique.
Complètement. Hein. Et donc, on voit en 10 secondes, en conclusion, on a eu la pandémie, la famine, le réchauffement climatique. Alors, je ne veux pas porter malheur, mais il y a cette variole du singe dont on ne connaît rien, qui se développe à nouveau. Je pense qu'il est temps maintenant de changer de modèle. Alors, vous trouverez sans doute mes propos très naïfs, mais là, nous sommes ici dans une forme de confort et il ne s'agit pas de nous autoflageller. Mais voilà, il y a aujourd'hui des gens qui meurent de faim dans le monde et je crois que c'est
cette question assez naïve. Est-ce que l'Inde, en décidant de ne plus exporter, n'a pas pris une décision très sage pour sa propre population?
Aussi, mais
c'est
on voit
une
bien,
décision historique.
Exactement.
Quand vous dites changer de modèle, là, c'est un changement de modèle.
je suis entièrement d'accord avec vous. Et je trouve qu'on a des débats en France très franco-français, la NUPS, l'écologie, deux ministres, trois ministres. Ouais. Voilà, à l'échelle mondiale, il faut aussi qu'on regarde la situation telle qu'elle est.
Regardez dimanche soir la fabrique des pandémies. On a reçu Marie-Monique Robin qui est allée enquêter. C'est une lanceuse d'alerte et elle explique comment ces pandémies se développent à cause justement de ce renoncement qu'on a à protéger la planète. Alexandre Malafaille.
Je veux simplement dire qu'on aurait dû depuis déjà longtemps tirer les leçons de la manière dont le monde mondialisé s'était organisé avec ses dépendances de tout le monde à tous les niveaux. Et on n'en a pas pris la mesure. Et ça, je crois qu'il faut blâmer notamment les dirigeants des grands pays occidentaux qui voyaient bien quand même comment s'organisaient les flux, où étaient les stocks de dépendance, où étaient les problématiques énergétiques, où étaient les problématiques alimentaires. On voyait bien que tout ça était totalement lié. La crise sanitaire n'a fait que révéler à quel point le système était déjà dans un niveau de tension extrême. Et c'est pour ça que je pense qu'il aurait été bien, bien, bien meilleur pour l'humanité de trouver toutes les solutions pour éviter que Poutine en arrive à faire cette guerre. Parce que malgré tout, il y a un enchaînement. Et je suis persuadé que cet enchaînement...
Mais ça vient de loin.
Oui, mais bien sûr qu'il vient de loin. Alors quand on commence à débattre de ça, on dit oui, mais bon, Poutine est fou. Mais c'est peut-être pas la seule explication. Et ça fait 30 ans que quelque part, quelque chose s'est construit. Et on aurait dû tout faire pour arriver à la paix ou à un compromis. Parce que maintenant, on va avoir bien plus de morts des conséquences de cette guerre au-delà des frontières de l'Ukraine. Et on est, nous, d'ailleurs, nous, Européens et nous, Français, en première ligne, ou si je peux dire en deuxième ligne, sur les conséquences économiques et sociales qui, elles aussi, sont redoutables. Donc je pense qu'il y a une responsabilité majeure, et malheureusement, comme il n'y a pas de gouvernance mondiale, l'ONU n'existe pas, et qu'en plus les pays gèrent en fonction de leurs intérêts, eh bien on en arrive à ce type d'extrémité. C'est encore une fois les plus démunis, les plus pauvres qui vont payer très
cher. La mondialisation heureuse dont certains se targuaient va devenir une expression qui va ne plus être utilisée du tout, qui va ne plus pouvoir être utilisée.
Ça, c'est sûr.
Mais Régis.
Je voudrais intervenir là, parce que la solution de compromis, elle existait. Ça s'appelait les accords de Minsk. On a été incapable, sous notre égide, on les parrainait, ces accords.
Bien sûr, Pierre Morel, ambassadeur de France.
S'ils avaient été appliqués, moyennant quoi ils n'ont pas été appliqués, on n'a pas eu ce courage-là. Et donc, le conflit commence par l'invasion russe. Et à ce moment-là, j'entends M. Bruno Le Maire, on va mettre la Russie à genoux. Mais enfin, voyons, premier producteur du monde de céréales, d'accord ? Premier producteur du monde de matières premières, énergie, uranium, etc., etc. Enfin, voyons, il faut être un petit peu sérieux. Alors, c'est vrai qu'ils n'ont pas vu venir. Vous avez eu tout un tas de rodomontades. On a Madame von der Leyen qui fait la tournée pour qu'il y ait des embargos qui vont, je veux dire, être catastrophiques pour l'Europe et pour leur propre pays. Il serait temps qu'on se réveille. Sur les réserves ukrainiennes, c'est exact. L'Ukraine est le septième producteur du monde de céréales. Mais le premier, qui effectivement, il ne faut pas trop lui en demander, va se servir de ça, va dire « je vous le vends, mais en rouble, etc. » Enfin, je veux dire, on a été d'une inconséquence. Et récemment encore, je reviens sur Bruno Le Maire, c'est grotesque, enfin, voyons.
C'est votre chouchou du jour, hein.
Il sera aux affaires étrangères, ça va être bien, non ?
Il y avait quand même un... Bon, on ne sait pas. Non, on n'en sait rien, vous n'en savez rien. Il y a des listes qui circulent. Voilà, vous faites courir des rumeurs. Il y a des listes qui circulent qui me paraissent...
Assez fantaisiste parfois.
Pas vraiment vraisemblable. Mais bon, on verra, c'est ce soir. Je pense que les Français ont d'autres préoccupations pour l'instant et on verra effectivement ce que ça va donner. Votre coup de cœur, Alexandre Malafaille.
Ouais, un vrai coup de cœur en fait pour les Afghanes, ces femmes afghanes qui ont décidé de résister à ce réenfermement dans l'obscurité de l'intégrisme religieux avec ce refus de porter le voile intégral, de porter la burqa. Elles le font au détriment de leur sécurité personnelle, sans doute de leur... de sanctions plus ou moins violentes, voire menaces de leur vie. Je trouve ça admirable. Je trouve ça d'autant plus admirable qu'on en parle très peu, alors qu'on a, nous, eu, on est sorti d'une polémique de 5 ou 6 jours sur le burkini. Tout ça, il y a des anachronismes qui pourraient faire sourire s'ils ne prêtaient pas à pleurer. Et alors, ce qui est assez intéressant à observer quand on prend un peu de recul sur ces questions-là, c'est qu'en fait, ce qui se passe en Afghanistan, est vraiment même un mouvement de revers par rapport aux pays les plus, on va dire, les plus engagés dans la religion islamique. J'ai eu la chance cette semaine dernière d'être à Riyad, en Arabie Saoudite, et c'est vrai qu'ils ont engagé un vrai changement de fond sur la manière dont, on va dire, les uns et les autres vivent, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les femmes à Riyad, elles peuvent s'habiller, j'allais pas dire comme elles veulent, elles ont toujours des abayas, mais elles n'ont plus l'obligation d'avoir les têtes couvertes, elles ne peuvent conduire, si elles veulent porter une abaya rouge, blanche, verte, n'importe où, elles le font, il n'y a plus de contrôle de ce côté-là, c'est le début du début, mais ce sont des signaux qui viennent et qui montrent que finalement, voilà, ce type d'enfermement et de privation des libertés n'est pas lié à l'islam, mais à des interprétations totalement intégristes de l'islam. Et je trouve que quand ça vient du pays qui détient les lieux saints et qui est un peu le pays fondateur de l'islam, c'est encourageant de la même manière que cette résistance qu'il faut saluer. Parce que voilà, s'il n'y a pas un peu de résistance et de soutien à ces résistances...
Mais cette résistance, elle dit exactement le contraire de ce que veut nous faire croire notre classe politique française. Éric Piolle en tête, qui nous dit il faut que chacun soit libre de porter à la piscine la burqa. Mais pardon, moi je pose une seule question, c'est entraîner les femmes qui ne veulent pas porter la burqa ou qui n'auraient pas pensé à la porter quand elles vont à la piscine, à se dire « Ah mais moi si je vais à la piscine sans la burqa, est-ce que je ne suis pas montrée du doigt, stigmatisée ? Et est-ce que ça ne pousse pas toutes les femmes musulmanes à porter la burqa ?» C'est-à-dire que c'est le contraire même de ce que sont en train de réclamer et de clamer ces femmes musulmanes. Non mais ces femmes afghanes, on est en plein délire d'enfants gâtés.
Oui,
mais
en même temps, on devrait consacrer une énergie très relative à ces questions-là, parce que ça reste ultra marginal. Vous prenez l'exemple de Rennes.
Comment vous expliquez que ça prenne comme ça dans le débat public?
Enfin, ça a été adopté à une courte majorité, mais à la majorité du Conseil
municipal. Non, mais dans le débat public, c'est la question.
Je vais dire deux choses. Un, j'aurais bien aimé assister aux 3 heures de débat pour voir un peu quels sont les arguments de fond posés par les uns et par les autres. Voilà. Ensuite, il y a eu apparemment une expérience similaire qui existe depuis 5 ans, je crois, à Rennes. Et apparemment, on en a dénombré une dizaine. Voilà, donc sur toutes ces dernières années. Donc, je veux dire, le problème est mis. Non, parce qu'en fait, en France, et alors c'est intéressant, ce que disaient les Saoudiens avec qui j'ai pu discuter la semaine dernière, on dit vous voyez la France comment, et j'en ai vu quand même quelques-uns, et ils m'ont dit mais la France, vous êtes un pays islamophobe. Voilà, et Gérald Darmanin, c'est l'extrême droite. Voilà, voilà les lignes qui reviennent. Je dis simplement que c'est vrai qu'on a une tendance à faire des débats.
Mais vous savez, l'islamophobie est un concept qui a été inventé de toutes pièces justement pour. Enfin, c'est ahurissant.
Évidemment, n'est pas du tout un pays islamophobe. Ça contredit tout ce que vous dites. C'est une contre-vérité absolue.
Je vous parle de la perception. Je vous dis pas dit que c'est ce qu'on était. Je vous parle de la perception qui est la nôtre. Et c'est vrai que quand on passe une semaine à faire un débat sur le burkini, je ne sais pas si, en fait, on est sur l'essentiel. Voilà. Je pense que c'est des sujets. Il faut combattre les dérives islamiques. Il y en a un somme chez nous. Mais il faut peut-être s'y prendre autrement que de cette manière-là. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. Et quand vous en parlez avec les dignitaires des trois communautés, grandes communautés religieuses, effectivement, ils aimeraient bien qu'on fasse autrement plutôt que de continuer à se stigmatiser les uns les autres. Voilà.
C'est d'abord une question politique. Et c'est-à-dire, bon, on est un pays particulier avec une conception de l'universalisme, avec un refus du communautarisme. Hein. Et aujourd'hui, la question de l'islam, qui est une question politique, la question de l'islam politique, je le dis différemment, c'est bien évidemment, ça s'inscrit dans une réalité sociale segmentée, contradictoire, qui fait que ça devient un enjeu. Il y a une stratégie salafiste pour ce pays.
Stratégie qui est encouragée par une partie de nos élus.
Je voudrais mettre un bémol. Alexandre, oui, je pense qu'on a un mouvement de sécularisation de l'islam, hein, et c'est peut-être une des conséquences de la globalisation. Hein, et je pense, quand on voit les études, etc., dans le Maghreb, le nombre de gens qui désormais assument de s'annoncer non-croyants, je suis très, très relativement optimiste sur cette sécularisation. Et ce qu'on voit effectivement dans les Émirats, alors c'est particulier sur le plan économique, mais je pense qu'il faut être plutôt optimiste.
Vous allez répondre après, je suis désolée, c'est page de pub. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.
On est ensemble jusqu'à midi. On a continué notre débat suite au coup de cœur d'Alexandre Malafaï, donc sur ces Afghanes qui ne se plient pas à l'obligation de la burqa. Et Jadad, vous vouliez répondre, continuer ce débat.
Oui, je vous remercie pour votre coup de cœur d'ailleurs, parce qu'évidemment, il faut qu'on n'oublie pas ce qui se passe là-bas et soutenir ces femmes qui se battent pour leur liberté et le droit de s'habiller comme elles le souhaitent. Et ce que vous disiez sur la vision de la France dans le monde arabe, moi je vous parle en tant que franco-libanais, mais comme quelqu'un qui a aussi fait parfois des débats et des plateaux télé dans le monde arabe. Et en France, moi je défends la laïcité, c'est-à-dire le droit des femmes à s'habiller comme elles le souhaitent.
Non, c'est pas ça la laïcité.
On me traite. En France, on me traite d'islamo-gauchiste parce que je dis la laïcité, ça n'est pas la neutralité de la France, c'est la neutralité de l'État. Et au Moyen-Orient, quand j'explique ce qu'est notre vision de la laïcité, on me traite d'islamophobe pour faire le lien avec ce que vous disiez. Donc c'est un débat que je trouve très intéressant, d'autant que c'est des sujets qui me marquent assez. Mais au risque de vous décevoir, sans vouloir préjuger de ce que sera l'avis du juge administratif que Gérald Darmanin a saisi, il est très vraisemblable que le tribunal administratif qui a été saisi pour casser la décision du tribunal de Grenoble n'aille pas dans le sens du ministre de l'Intérieur, parce que, et c'est pour ça qu'on a un débat en France qui est très intéressant, et sans doute peut-être faudra-t-il faire évoluer cette loi, le principe de laïcité aujourd'hui n'interdit pas, et ça c'est le droit, je ne fais pas de politique, le principe de laïcité n'interdit pas le port du burkini. Si on a interdit en France le voile intégral, vous savez, la burqa totale, si Nicolas Sarkozy et Jean-François Compé ont fait passer cette loi, c'était pas au nom de la laïcité, c'était au nom du trouble à l'ordre public. Et donc, c'est là peut-être qu'il faut qu'on ajuste en effet notre loi de 1905 sur le laïcité. Moi, je crois que, et c'est un débat qu'on a eu tout au long de la campagne, et notamment ici, je vous en remercie, moi je considère que c'est une revendication qui est identitaire, communautaire, moins religieuse en effet, que vous preniez l'exemple de l'Arabie Saoudite, que politique. C'est un message politique quand on s'habille comme ça. Alors, encore une fois, est-ce qu'on peut se permettre de savoir quelles femmes le font librement, quelles femmes ne le font pas librement? C'est un débat très complexe, mais parce qu'il y aura beaucoup d'émotions quand le tribunal administratif dira non, la délibération, s'il le fait évidemment, du conseil municipal de Grenoble n'est pas illégale. Il y a des maires qui avaient interdit le burkini sur les plages, le conseil d'État avait cassé, justement en disant le principe de laïcité n'interdit pas, et comme le visage est on voit le visage, il n'y a pas de trouble apparent à l'ordre public. C'est un vrai sujet qu'il faut qu'on aborde, évidemment, pour ce qu'il est, un sujet de droit, sans plonger dans l'instrumentalisation politique des uns, qu'ils soient des élus qui essayent de racoler des voix, ou des autres qui sont là pour faire passer des messages politiques et communautaires.
Moi, pardon, je repose la question. Ça sera donc, c'est un règlement, on est bien d'accord, il s'agit d'un règlement. Que vont faire les femmes qui, jusqu'à présent, les femmes musulmanes, qui jusqu'à présent allaient dans une piscine sans se poser du tout la question, en étant habillées comme une femme non musulmane? Est-ce qu'elles vont se dire, ce règlement-là me concerne et je dois moi aussi me mettre en burkini? Moi, il me semble qu'il y a là une manœuvre, alors probablement involontaire, mais une manœuvre qui va consister à faire que toutes les femmes musulmanes vont petit à petit se dire, ok, moi je veux pas d'ennui, je veux pas être montrée du doigt par les autres et je vais porter un burkini
alors,
comme les autres.
C'est sûr qu'il y a un message qu'on fait passer.
Enfin, je rappelle qu'il s'agit d'un règlement.
Je pense qu'il faut pas s'affoler. Je pense que malgré
tout, m'affole pas.
Tout ça finira par...
Je dis que ça va être la pompe naturelle.
Avec un peu de temps et avec... Voilà, si les choses évoluent, comme l'évoquait notre ami Régis, si les choses évoluent comme l'islam a l'air d'évoluer dans le monde,
je pense qu'il y a des gens qui ne partagent pas du tout votre avis. Non, mais qu'il y a un islam politique qui est très fort.
Mais c'est vrai, en France en particulier, oui.
Et qu'il y a une poussée pour rentrer en politique par la société. Oui, regardez ce qui se passe en Belgique.
Il y a d'ailleurs des candidats, je crois, aux élections législatives, une cinquantaine de ce parti. Mais parce que c'est une... Pardon, je vous coupe en 10 secondes. Je crois que c'est une revendication politique beaucoup plus que religieuse. Combattre sur le terrain politique. Absolument. Et ne pas associer. Moi, je dis toujours, il y a autant d'islam qu'il n'y a de musulmans. Chaque musulman croit.
Ils le font au nom de l'islam.
Il faut les démasquer. Politique. Il faut les traiter non pas du point de vue religieux, parce qu'on attaque sans le faire exprès plein de croyants qui croient, j'allais dire, dans le cadre de la République, et eux qui ont une revendication politique, identitaire, communautaire. Il faut traiter les symptômes, mais le traiter du point de vue politique.
Et donc, je pense que ce sera temporel ou temporaire, même si ça dure un petit peu trop longtemps. Et je pense aussi qu'il y a peut-être une réalité qui motive aussi le.
Je suis d'accord,
mais je l'entends parfaitement. Mais juste pour terminer, c'est qu'il y a aussi une réalité qu'il faut prendre en considération, c'est que malheureusement, comme on n'a pas bien fait respecter la loi française partout, et qu'il y a en effet quelques quartiers qui posent vraiment problème, ou quelques comportements qui posent problème, où vous avez effectivement, sans doute effectivement, des femmes qui sont soumises. Mmh. On l'avait dit, même ici avant de trentaine, je me souviens qu'une représentante de la communauté musulmane qui disait, mais si les femmes ne sont pas voilées, elles ne peuvent pas sortir de chez elles. Mmh. Voilà, c'est le moyen pour sortir. Et donc, c'est peut-être aussi pour certaines.
Tout le monde, toutes les femmes.
Oui, mais peut-être que pour certaines d'entre elles, c'est le moyen aussi pour aller à la piscine, sans quoi elles n'y vont pas.
Il faut prendre tout ça. Si vous trouvez que c'est un progrès, vous, pardon.
Peut-être que c'est mieux qu'elles puissent sortir de chez elles.
Après, on va vous dire qu'on ne peut pas envoyer les enfants à l'école parce qu'on leur parle de sciences naturelles, parce qu'il y a de la chanson, parce que. Où est-ce que ça s'arrête? On va vous dire, si vous ne changez pas les programmes scolaires, les enfants n'iront plus à l'école. Donc ça permet aux enfants d'aller à l'école. On peut pousser le raisonnement très loin.
On peut aller très loin, mais dès que vous ouvrez ce type de débat, c'est
sympa. mon optimisme, il est sur un mouvement de fond. Tout ça va prendre du temps. Hein. C'est une forme de sécularisation que l'on ressent. Attention, hein, c'est pas tout d'un coup. Bon, deuxièmement, c'est une question politique. Troisièmement, la loi de 1905, effectivement, il y a eu un incident la semaine dernière, je crois. Hein, il y a des élèves qui ont refusé dans un cours qu'on leur fasse écouter de la musique pendant le Ramadan. Alors, non, l'école, justement, est un espace de neutralité absolue. Exactement. Et c'est pour ça que je refuse qu'on change, qu'on permette de
pas avoir d'examen. Regardez en Belgique, pardonnez-moi, vous dites que l'école est un lieu de neutralité absolue, mais combien d'incidents de ce genre, les professeurs le disent eux-mêmes, j'ai pas terminé, combien d'incidents de ce genre sont tués par les professeurs et sont tués par les responsables d'établissement et se produisent, j'allais dire, à l'année? Combien y en a-t-il? Là, vous en parlez d'un, mais il y en a des centaines de protestations d'élèves, d'élèves qui sortent de la table, d'élèves qui... Rappelez-vous, je ne vais pas à chaque fois la rappeler, mais il faut quand même qu'on l'ait bien en mémoire. L'affaire Samuel Paty, elle vient de ça, elle vient d'un incident créé dans sa classe pour un professeur qui ne faisait qu'appliquer son programme. Et regardez ce que ça a donné. Ce professeur-là n'a même pas été défendu par sa hiérarchie. Il faut quand même replacer les choses dans leur contexte. Du coup, les professeurs se taisent et supportent ces incidents à répétition qui ont lieu tout au long de l'année dans certaines classes et dans certains établissements.
Ce matin, le maire RN de Fréjus interdit le burkini dans les piscines et sur les plages de sa commune. Donc il y aura vraisemblablement là aussi une plainte. Et puis mon coup de gueule rapide qui venait dans la suite de ce que vous disiez, c'est-à-dire que les talibans aujourd'hui, c'est dans le Figaro ce matin, demandent que les présentatrices télé couvrent leur visage. Elles vont devoir présenter les journaux, si elles en ont encore le droit, de couvrir le visage des femmes partout. Les chaînes de télé ont jusqu'au 21 mai pour faire appliquer cette recommandation. Donc c'est vrai qu'on nous avait parlé de talibans modérés.
Je ne sais pas qui les a crus,
mais en tout cas cette information est absolument glaçante. Allez,
merci,
on se retrouve
Américains.
Dans un
merci
instant. Oui, et George Bush qui a confondu l'Irak et l'Ukraine. Allez, à tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Allez, on change de sujet, on va parler politique. Le gouvernement donc a mis du temps pour composer son gouvernement. Et puis Damien Abad quitte la présidence des députés LR, il se met en congé du parti. Visiblement, il va intégrer ce gouvernement. Hier, Elisabeth Borne disait on ne va pas se mettre la pression, décider là maintenant tout de suite, on veut la meilleure équipe. Alors il y a plein de listes qui circulent. Le départ de Damien Abad, peut-être un commentaire non-événement ou...
Il était temps.
Oui.
Ouais, je pense qu'il est...
Non, mais le type, il a fait quand même campagne pour LR.
Ben oui,
il était président...
Depuis combien de temps LR lui dit « Ne joue pas double jeu, attention à ce que tu fais ». Je pense qu'il a attendu l'extrême limite et probablement peut-être une assurance de Mme Borne pour être bien sûr qu'il pouvait abandonner ses fonctions. Je trouve que la méthode est franchement pas très élégante parce que ça fait quand même des semaines qu'au sein de LR, tout le monde sait ce qui est en train de se préparer et lui demandait de clarifier sa situation. Il attend la dernière limite.
C'est assez cynique parce que d'ailleurs, on lui avait donné 48 heures et il avait demandé 48 heures de plus en se disant peut-être que d'ici 48 heures,
le gouvernement sera nommé.
Voilà, et je trouve ça assez cynique. Après, s'il avait envie de partir, tant mieux pour lui. Mais depuis 5 ans, il a été un opposant, le premier des opposants à l'Assemblée nationale du groupe LR au gouvernement. Et je ne suis pas certain que ça redonne envie aux Françaises et aux Français d'aller voter parce que la classe politique qui fait passer ses propres intérêts avant les siens, je ne dis pas de manière générale, mais là, cet exemple précis, s'il est d'accord avec Emmanuel Macron, tant mieux. Mais dans ce cas, on va lui dire, mais vous avez voté contre tous les textes. Donc, je ne suis pas certain, indépendamment de son destin personnel, qui, je dois l'avouer, m'intéresse assez peu. Pour les Françaises et les Français, je ne suis pas certain que ça redonne envie d'aller vers la chose politique.
Est-ce qu'on peut redire qu'il y a eu plus d'abstentionnistes que de gens qui ont voté pour Marine Le Pen, qui est arrivée au second tour de l'élection présidentielle? Est-ce qu'on peut le dire? Et est-ce qu'on peut dire à quel point les gens, aujourd'hui, font sécession de la chose politique et à quel point c'est grave?
Ça rejoint le deuxième thème aussi sur l'exemplarité, sur ces politiques qu'on défie. Alexandre Malafaï.
Non, mais je rejoins ce qui a été dit. C'est assez édifiant de voir qu'au bout du compte, personne n'a véritablement de colonne vertébrale. Ça, c'est une espèce de bal de théâtre avec des gens qui montent sur scène.
Soupe.
Bah oui.
C'est quand même le patron des députés. Mais c'est le patron des députés LR à l'Assemblée nationale.
Je ne dis pas que derrière tout ça, il y a des gens qui ont vraiment envie de servir, qui se disent finalement repasser 5 ans dans l'opposition alors que j'ai des idées, alors que je peux être utile. Après tout, pourquoi pas? Je peux comprendre. Sauf que derrière, ça, c'est difficile à percevoir. Parce que bien sûr que pour l'ensemble des gens qui nous écoutent, et même parfois pour nous, on se dit, mais quand même, ils vont à la gamelle, quoi. Ils n'ont pas envie, ils ont envie de mettre leur nom dans l'histoire, ils ont envie d'avoir des lois qui portent leur nom, ils ont envie de. Voilà, et ça, c'est ça qui est troublant. Et cette espèce de manque d'exemplarité, de dignité, de capacité à rester fidèle à des convictions dans la durée. Alors, c'est vrai qu'Emmanuel Macron a bien fait bouger les lignes, parce qu'avec lui en même temps, tout est. On ne sait pas situer Emmanuel Macron sur un plan politique.
Plutôt à droite, pardon.
Oui, d'accord, mais vous dites ça, mais enfin, on voit son gouvernement depuis des années. Un coup, il fait ci, un coup,
si
il fait ça.
C'est
très difficile. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il y a deux autres blocs qui sont très polarisés, avec des propositions qui sont très dures et très alternatives.
Les deux extrêmes.
Exactement. Et au milieu, ça ressemble plus à grand chose, quoi. Non. Et ceux qui devraient être un peu les tenants de certaines lignes de fond, bah, ils passent leur temps à faire n'importe quoi au profit de ce qui est apparent sur leur carrière.
Ils sont affolés par les scores de leur famille politique et c'est sauf qu'il peut.
Régis.
Moi, on va en même temps fusionner les deux thèmes, l'exemplarité. D'ailleurs, c'est venu. La sécession, Virginie, elle a une raison essentielle.
Oui, Régis.
Alors, certes, c'est certes, la sécession des élites par le haut, mais c'est l'impuissance des politiques. C'est ça le problème. Aujourd'hui, toutes les mesures préconisées par Mélenchon dans son programme ou par Marine Le Pen ne peuvent pas être réalisées dans le cadre européen. Et les abstentions colossales dans les élections intermédiaires auparavant qui étaient suivies.
Les municipales, les régionales, les départementales. Exactement.
Les gens se disent, mais à quoi bon? Ça ne sert à rien. Donc, c'est cette impuissance, y compris. Alors après, on fait des débats sur est-ce qu'il a fait une violence avec son épouse pour Jérôme Peyrat, est-ce qu'il a fait ceci, etc. Hein, parce que c'est tout ce qui nous reste. C'est tout ce qui nous reste. C'est, si vous voulez, les questions de la corruption. Quand on voit pourquoi est-ce que Balkany était réélu, personne ne se faisait d'illusions sur lui, et je trouve tout à fait normal qu'il ait fini par payer. Mais il n'empêche que c'était un bon maire pour les gens. Donc, je ne dis pas qu'il faut que j'aurais sûrement pas voté pour lui, mais je veux dire, c'est une réalité. Cette abstention, elle n'est pas parce que les gens... c'est facile de dire tous pourris. C'est parce qu'on sait très bien que sa voix ne servira à rien.
Régis, je voudrais vous reprendre sur un point. Vous avez dit que les programmes des candidats dits extrêmes ne pouvaient pas s'appliquer. Vous n'avez pas tout à fait raison sur deux, trois expériences récentes. Par exemple, quand on nous disait on ne peut rien faire avec les frontières, on a vu qu'on pouvait faire avec les frontières à l'occasion de la crise sanitaire. Et là, ça a été peut-être poussé par la crise. Il n'empêche que... Et là, ils se sont enorgueillis en disant, voyez, on pouvait le faire, vous nous disiez qu'on ne pouvait rien faire. Et encore plus récemment, Marine Le Pen disait que si effectivement elle était présidente, elle sortirait la France du système de régulation tarifaire pour l'électricité, parce que effectivement nous on est pénalisés par ce système-là. C'est ce que viennent d'obtenir, alors sans passer en force, mais ce que viennent d'obtenir l'Espagne et le Portugal pour éviter de pénaliser leur population, parce qu'ils ont une autonomie en termes de production qui fait qu'aujourd'hui ils sont dépendants d'un système qui leur fait payer trop cher. Et nous c'est la même chose. Donc en fait quelque part l'histoire valide quand même le fait qu'ils disent beaucoup de
Alexandre,
bêtises, mais
c'est
parfois
la politique qui reprend ses droits. Elle peut reprendre ses droits. C'est la politique qui reprend ses droits.
Mais Régis, vous êtes d'accord que ce qui était raconté comme impossible ne l'était pas, voilà. En fait.
Mais pourquoi? Mais c'était comme l'histoire du plan A et du plan B de Mélenchon, hein, ou l'abandon par Marine Le Pen de la, du retrait de l'euro. Hein. Tout le monde sait très bien que s'ils étaient l'un ou l'autre arrivés au pouvoir, il y aurait eu une bataille politique assez sévère. Ce qui explique pourquoi, d'ailleurs, je pense essentiellement à Marine Le Pen, quand Macron avait dit l'élection présidentielle française, c'est un référendum pour ou contre l'Europe, et que les dirigeants de la Commission européenne s'étaient prononcés pour Emmanuel Macron, ce que j'avais trouvé personnellement tout à fait invraisemblable.
Absolument.
Donc oui, non, mais vous avez raison, c'est la bataille politique. Mais aujourd'hui, je veux dire, d'abord le niveau de notre classe politique s'est effondré. Enfin, il faut. Ouais. Moi, j'en ai connu d'autres. Hein, et deuxièmement, le fait qu'on s'attache à des problèmes formels comme ça, etc. Je trouve ça tout à fait normal que Soler dégage.
Hein, ah oui, alors.
On va pas faire son palmarès.
Très chef d'inculpation, c'est pas tout à fait un problème
noir,
formel.
C'est le baron noir de la droite.
Il est déjà condamné.
Il a été condamné parce qu'on dit, ça n'a pas été jugé.
Dans l'affaire Urvoas, où les rapports de loge franc-maçonne avaient fait que Urvoas, qui a été un bon garde des Sceaux, avait violé le secret pour lui donner des informations sur les procédures qu'il concernait. Il est passé en cour de justice de la République et il a eu une peine symbolique. Oui. Donc,
mais c'était pas tenable, je pense, pour le gouvernement, compte tenu de l'affaire Peyra, d'un certain nombre.
Oui.
Et c'était le,
le prochain. Oui, mais ça, ce sont des questions politiques. Bien Parlons sûr. De Tahabouaf aussi. Ouais. Ce sont des questions politiques.
J'ai évoqué son nom tout à l'heure.
Et après, il appartient aux électeurs de se décider.
Mais est-ce que les partis doivent présenter ces candidats-là?
Comme dirait Stanislas Guérini, l'important, c'est le peuple est au-dessus des juges, finalement, et c'est le peuple qui tranche et qui choisit ou pas.
Le peuple est souverain.
Si on prend cette voie-là, on plonge dans le populisme. Enfin, pardon, mais en France, il y a quand même une justice qui est indépendante. Le peuple, déjà, je déteste qu'on emploie l'expression de peuple, parce que le peuple n'existe pas, c'est une construction. Il n'y a pas deux personnes qui pensent la même chose en France. Et c'est heureux, mais quand on dit que le jugement du peuple est plus fort que le jugement du droit, enfin, on bascule dans un régime politique où il n'y a plus aucune norme, où il n'y a plus de présomption d'innocence, où il n'y a plus de droit à se défendre. Moi, je pense que, en effet, les électeurs sont maîtres du destin politique de la France, il y a deux choses à distinguer. Quand on a des personnes qui sont condamnées, la justice s'est prononcée, donc il me semble quand même qu'il faut que les partis prennent leurs responsabilités, et ensuite, quand il y a des affaires en cours, ils sont présumés innocents, c'est le droit. De la même manière que s'ils sont condamnés dans une affaire et qu'ils font appel, et ben le jugement est suspendu et donc il y a encore une affaire de justice en cours. Mais je pense que les Françaises et les Français, vous disiez, les gens ne vont plus voter parce que la classe politique est impuissante. Je ne crois pas. Dans le cas de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen, c'est parce les politiques mentent. Parce qu'on ment pendant la campagne présidentielle et les différentes campagnes.
Et
ensuite, forcément, on ne peut pas mettre en œuvre un projet. Et on sait comment. Parce que je suis un peu naïf et je revendique cette naïveté, je ne peux pas vous laisser dire que quand on vote, notre voix ne sert à rien. Il faut faire en sorte que les institutions soient plus représentatives, qu'on transforme les modalités de l'action publique, mais il faut inciter les gens à aller voter.
Le référendum, les gens ont voté et la décision contraire au référendum a été prise.
Et vous comprenez ce à quoi bon, c'est-à-dire on va voter, mais...
Il y a 12-13 millions de gens qui ont voté, je ne sais plus très bien, pour Marine Le Pen. Elle va avoir royalement 10 députés. Quant à la justice, elle est indépendante. Je m'en fiche, je veux qu'elle soit impartiale. Or, j'ai écrit 600 pages pour faire la démonstration qu'elle était politisée. Bon, deuxièmement, si on fait du droit, moi je veux bien, quelqu'un qui a été condamné, qu'est-ce que c'est que cette histoire de casier judiciaire vierge pour pouvoir se présenter? Vous commettez une infraction, vous payez votre dette à la société, vous redevenez citoyen de plein exercice. La question, c'est l'éligibilité. Elle peut vous en être privée par le juge, mais c'est une sanction. Donc, dès lors que vous avez... rempli vos obligations vis-à-vis de la société, vous pouvez parfaitement être candidat.
Absolument.
Après, bien sûr, c'est une question politique. Il appartient au parti d'investir ou pas.
Pour aller dans votre sens, moi, ce qui me gêne beaucoup dans le cas de Thierry Soler, c'est pas le fait qu'il ait 13 mises en examen et on verra bien ce que dit la justice, mais c'est qu'il y a quand même un petit peu, comme dit l'autre, il n'y a pas de fumée sans feu, il y a peut-être quand même quelque chose. En tout cas, quoi qu'il arrive, moi, ce qui me gêne vraiment, c'est qu'il soit dans le premier cercle du président de la République. Je veux dire, on ne l'aurait jamais toléré pour aucun chef d'État jusqu'à présent.
C'est pas 13 mises en examen, c'est 13 chefs d'accusation.
Et il est quand même aux premières loges des manœuvres de la droite. Je dis, c'est le baron noir de droite. C'est vraiment, ça me gêne. Oui. Voilà, ça me gêne. C'est une question éthique. Il y a que derrière, c'est pas tellement peut-être qu'il fait très bien le job là aussi. Je porte pas de jugement, mais je dis, c'est gênant pour les Français parce que dans la vraie vie, quand vous êtes autant, si je puis dire, poursuivi par la justice, dans votre vie professionnelle, ça ça vous pose des vraies questions quand même.
Mais enfin, c'est tout azimut, c'est tout parti confondu qu'il y a des candidats qui sont...
Mais peut-être pas à ce moment-là, avec ce niveau de proximité, avec le premier dirigeant garant de la Constitution. Quoi.
Ouais, ouais, mais
et qui vient d'être réélu triomphalement. Moi,
et qui avait promis triomphalement, une République exemplaire un peu, hein. En 2017.
Il a perdu 3 millions de voix entre 2017 et 2022, c'est pas un triomphe.
Allez, on marque une petite pause et on continue ce débat tout de suite après.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Les débats avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. On verra le gouvernement donc ce soir. Arrêtons les spéculations. On parlait de cette. C'est le jeu préféré des journalistes. Hein. Puis alors on reçoit des listes, encore une fois, toutes plus.
Avec la règle immuable qui fait que plus les noms sont cités, moins vraisemblablement ce sont les
nommés et qu'on peut avoir des surprises. Je voudrais quand même qu'on parle encore des hôpitaux, de l'éducation nationale. Enfin, on a un peu l'impression quand même qu'on est dans une forme de chaos. Vous évoquiez. Alexandre Malafaï pendant la pub, le Quai d'Orsay qui se met en grève.
Ah oui, c'est vraiment assez fascinant, parce que s'il y a bien des maisons dont on n'imagine pas qu'elles puissent avoir à un moment donné ce type de perturbation sociale de premier rang, et avec les éclaboussures que ça donne effectivement dans les médias, et bien pourtant, une bonne partie des diplômés du Quai d'Orsay, les jeunes notamment, ont décidé de se mettre en grève, alors ça durera ce que ça durera, mais ils sont soutenus par les syndicats, puisqu'en fait, quand on est diplomate, on a un métier, et on est là pour exercer un métier au service de l'État, et normalement de le faire pour une vie, c'est une carrière au service de l'État, parce que la diplomatie, c'est quelque chose qu'on n'improvise pas, aller parler dans des pays étrangers.
C'était même un des corps les plus prestigieux. Bah, voilà. Et donc, de l'École nationale d'administration.
Et donc, il se trouve que dans la foulée de la réforme de l'ENA et de la suppression des grands corps voulus par Emmanuel Macron, il y a un décret qui est sorti le 17 avril qui a mis un terme au grand corps des ambassadeurs et au grand corps des préfets. Et donc, de fait, ça veut dire que demain, vous pourrez faire l'école du Quai d'Orsay, vous pourrez faire l'ENA, vous pourrez faire ce que vous voulez, enfin l'ENA ou autre chose, et puis vous pourrez même venir du civil, être comme vous, comme moi, et puis vous retrouver, pourquoi pas, nommé au gré des opportunités, on va dire, ou des amitiés, pour aller vous représenter la France. Alors, c'est ce que font les Américains. Les ambassadeurs américains sont en général nommés dans les grandes villes en particulier. Ce sont les grands soutiens financiers du président élu. Et donc, ils nomment, ils placent, etc. Alors, derrière, il y a des armées professionnelles, mais il n'empêche que le diplomate en chef, c'est pas un professionnel. Chez nous, on a voulu faire exactement le contraire. Là, c'est une dérive à l'américaine. C'est assez pénible parce que on voit bien quand même que c'est un vrai métier. Enfin, je le disais en aparté, pour avoir été la semaine dernière en voyage à Riyad, j'ai pu rencontrer nos équipes diplomatiques. Très sincèrement, ce sont des gens qui comprennent ce qui se passe et qui ont de la continuité, qui ont des parcours au Moyen-Orient, ils ne sont pas là par hasard. Donc on peut vraiment discuter avec eux. Et le fait de casser comme ça ces filières, de casser ces filières d'excellence, parce que même si on peut faire plein de reproches au Quai d'Orsay... Voilà. Et puis il y a un deuxième problème, c'est que ça rejoint votre préoccupation sur les hôpitaux. Oui. Les effectifs du Quai d'Orsay, c'est moins 50% en 30 ans. Voilà. Alors là aussi, ça pose des vraies questions sur comment on fait le job, comment on occupe les positions. Dans certains pays, on a même retiré nos antennes de la DGSE. C'était le cas en Ukraine. Quand on a retiré l'antenne de la DGSE en Ukraine. Oui, c'est extraordinaire. Donc il y a un problème de moyens qui se traduit à l'hôpital. Et l'hôpital, lui, mon analyse à moi, très modeste, hein, c'est dire si ça va aussi mal, c'est que c'était déjà en flux ultra tendu jusqu'avant la crise sanitaire. Et la crise sanitaire, pour toutes les raisons qu'on a pu évoquer ici pendant des dizaines et des dizaines de fois, entre le manque de moyens, les clivages qui se sont nourris avec la question de la vaccination, bah, les gens n'ont plus envie d'aller bosser et le recrutement est tardé.
On peut souligner à quel point la crise sanitaire a mis en exergue des choses que la classe politique taisait soigneusement et que les Français ne voyaient pas, qui était la fragilité de l'ensemble du fonctionnement de notre système. Ouais. Et là, on en subit les conséquences alors que la crise sanitaire semble s'éloigner de nous.
Oui, maintenant, on peut revenir à ce qu'on évoquait, c'est-à-dire l'éducation nationale. Hier, le Figaro alertait sur le fait qu'il n'y aurait pas assez de profs pour combler tous les postes. Donc, il y a l'éducation nationale qui va mal. L'hôpital, on voit qu'il y a un certain nombre de services d'urgence
à
qui
Bordeaux,
sont obligés.
À Bordeaux, il n'y a plus de services d'urgence la nuit.
Bah, dans un des hôpitaux, il y a une vingtaine, je crois, de services d'urgence qui ne peuvent plus accueillir dans des conditions correctes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé aussi pour qu'on en arrive là ?
C'est ce que vous disiez à l'instant, la question de l'attractivité de ces métiers-là. Quand on est un professeur et qu'on commence à un petit peu plus de 1500 euros par mois, c'est juste pas possible dans l'époque qu'on vit. La même chose quand on est un infirmier et qu'on commence une carrière au service des autres. Et donc, le premier enjeu, enfin, il me semble, hein, mais je peux évidemment me tromper, c'est l'attractivité. Alors, je dis pas que rien n'a été fait. Il y a eu un Grenelle de l'éducation qui a commencé à revaloriser les enseignants, ce qu'on a appelé un Ségur de la santé qui a aussi commencé à revaloriser les professionnels de santé. Mais je pense que de manière générale, il faut qu'on se pose nous aussi la question de qu'est-ce qui doit demain faire partie du champ de ce qu'on appelle le service public. Parce que le service public en 2022 n'est pas le même que le service public en 1958. Donc il faut qu'on ait ce véritable questionnement, peut-être même plus philosophique et politique, sur qu'est-ce qui doit aujourd'hui rentrer dans le champ du service public ou non, qu'on ne devienne pas les États-Unis où quand on va faire un test PCR, bon, vraisemblablement, j'espère qu'on n'aura plus à en faire des tests PCR, mais on sort sa carte bleue quand on arrive à l'hôpital ou à la pharmacie. Et puis ensuite, revaloriser les carrières, parce que quand il y a plus de postes que de jeunes qui se présentent au concours de maître des écoles notamment, ça pose la question des vocations et donc l'attractivité financière aussi, hein, le salaire, pardon de revenir à des sujets aussi basiques, mais il faut un salaire digne, notamment dans la période actuelle. Donc je pense que c'est... Et puis la territorialisation aussi, peut-être que c'est le moment d'enclencher un grand nouvel acte de décentralisation pour rapprocher les services publics, sans pour autant que l'État ne se défausse sur les collectivités.
C'est dans un tel État aussi que ça va être...
Je voulais dire un mot sur la réforme de l'État qu'avait promis Emmanuel Macron en 2017 et qui aurait probablement, si elle avait été lancée, effectuée, je reconnais que c'est une tâche immense, mais permis de comprendre pourquoi cette administration française, qui est quand même très importante, pourquoi elle ne fonctionne pas assez bien, pourquoi il y a des fonctionnaires qui sont dans les bureaux et pas sur le terrain. Enfin, moi j'ai le souvenir de médecins et des responsables des hôpitaux qui ont dit que pendant le premier confinement, rappelez-vous le confinement où tout le monde était chez soi, jamais ils n'ont aussi bien travaillé parce que l'administration s'était tout simplement mis en retrait et qu'ils ont retrouvé les manettes de leur service, les manettes de leurs décisions et que jamais ils ont aussi bien travaillé. Donc que font les gens qui sont dans les bureaux? Est-ce qu'il n'y en a pas trop? Est-ce qu'on ne ferait pas mieux là de réellement réorganiser, faire le ménage? Et comment cette administration, pardon de le dire, qui est pléthorique, ne se parle pas à elle-même et entre différents services ou différentes directions fonctionne en silo? Là, il y a un travail énorme à faire qui n'a pas été fait depuis 30 ans, par lâcheté, par manque de courage, parce que c'est un truc tentaculaire.
Enfin, comment on reconstruit? Je veux dire, là, on est dans une urgence qui va être...
Mais peut-être qu'il faut mettre un plat pour reconstruire proprement.
Oui, mais qui va être vital. Mais là, on a le nez sur des services d'urgence. Il y a une urgence qui va être là. Régis, il est parti ? On a perdu Régis, on va le retrouver. Mais il y a une urgence immédiate qui est de dire, demain, on va à l'hôpital, on ne peut plus être soigné et accueilli. À la rentrée prochaine, est-ce que vos enfants auront des enseignants ?
Oui, je crois que c'est Patrick Peloux qui s'inquiétait déjà cet été en disant, avec le fait que ça manque de personnel dans les hôpitaux, plus les vacances, parce qu'ils ont, et c'est heureux, droit à des vacances, nos soignants qui sont engagés depuis plus de deux ans, ça pose véritablement la question de l'attractivité de ces services publics-là. Et oui, c'est vrai, est-ce que nous sommes toutes et tous prêts à renoncer, par exemple, est-ce qu'on est prêt à payer 1 euro de plus la consultation chez le médecin? Est-ce qu'on est prêt à ce que certains médicaments ne soient plus remboursés? Enfin, je prends véritablement l'angle un peu provocateur,
mais
je pense que c'est une véritable question qu'il faut qu'on se pose le contour de ce qu'on appelait un temps notre État-providence. Qu'est-ce qui doit ou non demain encore faire partie de cette solidarité nationale? Est-ce qu'il faut changer notre façon de consommer aussi des services publics, parce qu'ils ne sont pas gratuits, on les paye par nos impôts. Et moi, je trouve qu'on ne mesure pas assez, à la fois, ça me permet d'en parler, la chance qu'on a d'avoir des services publics qui sont existants. On parlait tout à l'heure des États-Unis, moi je peux vous parler aussi du Liban, où l'école ou l'université, on la paye quand on entre, et donc il y a une véritable discrimination à l'entrée. Voilà, on a un système où malgré tout, on est tous contributeurs, c'est pas gratuit, mais peut-être qu'il faut se poser cette question-là, plus philosophique. Mais je suis d'accord avec vous, ça n'enlève pas l'urgence.
Alors,
des prochains mois.
La question du court terme, juste pour un commentaire.
La question du court terme,
c'est que déjà, si on voulait un peu apaiser les choses, il faudrait que la puissance publique, la parole publique, en tout cas les gouvernants qui vont arriver, portent des diagnostics lucides et disent aux Français exactement ce qu'il en est, et donc voir comment après chacun peut aussi faire quelque chose qui aide. Voilà. Typiquement, c'est vrai que parfois il y a des gens qui vont aux urgences, ils peuvent faire autrement. Dans certains cas, il y a plein de situations où on voit bien qu'on peut s'organiser autrement. Voilà. Et c'est de contribuer. Mais donc ça suppose qu'il y a une honnêteté de la parole publique qui dit, ok, on est dans une situation très dure, on n'en sortira pas autrement qu'avec du temps, mais en attendant, il faut qu'on fasse un effort tous et d'être lucide par rapport à ça. Je pense que ça aiderait à décrisper développer, parce que sinon, on va, si la rentrée solaire se passe comme vous l'imaginez, ça va
Régis,
être compliqué.
Régis, hein. Régis.
Alors, oui, j'ai eu un petit souci d'Internet. Oui, ce que je voulais dire, la question de l'État, c'est une question idéologique aujourd'hui. C'est une question idéologique. Le néolibéralisme a une vision de l'État. La France a un État-providence qui lui est propre depuis 1945, on le sait, hein, et il y a une contradiction avec la vision idéologique des néolibéraux concernant l'État. Le scandale McKinsey, qui n'était pas le seul, le bureau d'études, est au cœur de cette problématique.
Hein, n'est pas
la réforme
scandale,
de l'État, effectivement, les néolibéraux considèrent que l'État a une fonction assez simple, qui est celle de garantir la concurrence libre et non faussée. Bon, ça c'est ma première observation. Il y a un problème idéologique sur ce que doit être l'État. Et effectivement, une partie des grandes fonctions, même les fonctions régaliennes de sécurité et de justice, mais de santé, les grands services publics sont aujourd'hui en déshérence et à l'abandon. Ma deuxième observation, c'est juste symbolique. Hein, j'ai vu un joli petit diagramme avec des cercles concentriques, hein, où on avait les métiers les plus utiles pour la société et on avait les niveaux de rémunération. C'est exactement l'inverse.
C'est l'inverse.
Les métiers les plus inutiles sont les mieux payés, les meilleurs métiers les plus utiles sont les plus mal payés.
Vous mettez les footballeurs dans les inutiles ou pas? Non,
non, les footballeurs, ce n'est pas ceux qui gagnent le plus dans le foot business. Hein. Donc, ils ont des carrières courtes. Ce sont de grands artistes en général.
Donc,
je
quand
suis
quand
leur spectateur.
Ils gagnent énormément d'argent quand même, Régis.
Oui, mais attendez, ils ne le volent pas. Hein. Ils partent en centre de formation très jeune, ils font beaucoup de sacrifices, ensuite ils font vivre la famille.
L'apprenti boulanger aussi, hein, et il ne gagne pas 50 millions d'euros par an.
Oui, non, mais attendez. Son apprentissage à 14 ans.
C'est un faux débat, le foot. C'est un faux débat.
Ah bon, hein,
moi, si vous voulez qu'on regarde des rémunérations indues, hein,
je pense qu'il y aurait.
On va faire un débat là-dessus.
Un débat spécial.
Alors, dernières informations qui ont l'air à peu près certaines. Rima Abdul-Malak, qui remplacerait Roselyne Bachelot à la culture. Elle est libanaise.
Oui, tout à fait, elle est libanaise.
Et elle était conseillère culture à l'Élysée. Et puis Olivia Grégoire, qui serait porte-parole du gouvernement, ça semble être quasi certain. Voilà, à suivre, ce sera ce soir. Soyez patients, merci à vous. Très bon week-end, dans un instant, André Bercoff.